Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Vivre son amour loin l'un de l'autre. On l'a vu souvent dans Aix, ça donne de sacrées histoires d'amour. Mais alors quand l'histoire se passe entre le Kenya, l'Angleterre, Bruxelles et la Pologne, ça donne l'histoire extraordinaire de Marie.
On est en 2016, j'ai 19 ans à l'époque. Et j'ai fait une année d'études, voilà, qui m'a pas vraiment plu, j'ai raté mes examens, etc. Et donc je décide de faire une année de césure pour trouver un peu ce que je veux faire, pour avoir une expérience. Et donc je commence à m'informer pour aller à l'étranger, je regarde un peu et je tombe sur un organisme qui permet de partir à l'étranger faire du volontariat. Je regarde un peu les projets et je vois qu'il y a plein de projets sympas en Afrique. Et je me dis, ben, trop bien, l'Afrique anglophone, je connais pas. Et mon papa aussi, dans les années 80, était parti faire son service civil au Mali, avait rencontré sa première femme là-bas, etc. Donc, je me dis, ben, pourquoi pas l'Afrique. Et je regarde un peu et je vois qu'ils ont plein de petits projets sympas au Kenya. Donc je me dis, bon, ben chouette, c'est décidé, je pars au Kenya. Je prends les billets d'avion, etc., etc. Je fais bien attention auprès de mon organisme, ici en Belgique, d'avoir un numéro de téléphone d'urgence s'il y a un problème. Et je pars. C'était le 4 novembre 2016. À ce moment-là, en fait, j'ai pas très peur de partir parce que j'ai déjà voyagé seule. Et en fait, je m'imagine le Mali parce que le Mali, je connais. Et donc, je me dis, bah, le Kenya, ça doit être comme le Mali. Alors que pas du tout. Et je sais pas, c'est en même temps, je suis fière de moi. Enfin, depuis toute petite, j'ai voulu faire ça. J'entendais les histoires de mon père qui nous racontait quand lui était à Tombouctou, à Bamako. Je suis super excitée d'enfin faire cette expérience que j'ai un peu imaginée. Et d'un autre côté, je suis contente de partir. Je sais que c'est pas pour longtemps, c'est 6 mois, puis je vais revenir. Puis j'ai 19 ans, donc je viens aussi de sortir du cocon familial. Je suis contente d'être seule, d'être loin de ma famille. Au final, ça me... Voilà. J'ai juste un petit peu peur que ça se passe mal, dans le sens où que personne vienne me chercher à l'aéroport. Vraiment, j'ai ce truc-là. Et donc, j'arrive, le vol se passe très bien, voilà, j'arrive à Nairobi. Je sors du terminal et je vois plein de gens, mais je vois personne avec mon nom sur un papier. Le terminal commence à se vider, et ben les gens qui sont arrivés, qui étaient avec moi dans l'avion, commencent à partir, donc je me retrouve un peu seule devant l'aéroport avec tous les taxis en face de moi. Et un taxi vient me voir et me demande en anglais, est-ce que t'as besoin d'aide? Je lui dis, non, ça va, quelqu'un va venir me chercher, t'inquiète pas pour ça. Sauf que j'attends et personne ne vient. Et moi, j'ai encore donc mon organisme ici en Belgique m'avait bien donné un numéro de contact. Sauf que j'avais pas de carte SIM kényane et du coup, ben, je pouvais pas appeler avec mon numéro belge. Et du coup, je vais vers le taxi qui m'a abordé il y a quelques minutes et je lui dis, est-ce que tu pourrais m'aider avec ton téléphone pour que je puisse appeler quelqu'un? Donc il me dit, pas de problème, il prend le bout de papier où il avait inscrit le numéro, il appelle le numéro, il parle en swahili, évidemment moi je comprends rien du tout, et il me passe le téléphone. Je dis, oui, bonjour, je suis Marie, je suis la nouvelle volontaire, je vous attends à l'aéroport. Et lui me dit en anglais, je m'appelle Simon, j'arrive tout de suite, je suis dans les embouteillages, c'est une question de minutes. J'ai ok, parfait, donc moi j'attends et je suis toujours devant tous ces taximens. ils commencent à se disputer entre eux. Et je me dis, oulala, où est-ce que j'ai débarqué, quoi? Et vraiment, je vois un type que j'avais pas vu. Et du coup, je commence un peu à regarder cette embrouille. Et je vois, du coup, ce type que j'avais pas remarqué, un bout de papier. Et dessus, il y a écrit mon nom. Et donc, je le regarde et je me dis, mais c'est moi, c'est mon nom, c'est moi, Marie. Et il me dit, mais oui, mais moi, je t'attends, ça fait 45 minutes que je t'attends. Je suis la personne qui doit venir te chercher. Je sais pas ce que ces taximens t'ont dit. Moi, je m'appelle Jacob et je travaille pour l'organisme que je rejoignais là au Kenya. Il avait mon nom sur un papier, donc évidemment que j'allais aller avec lui. Et en fait, ce qu'il m'explique, c'est que moi, j'étais au terminal 2 et lui était au terminal 1. Et en fait, les vols internationaux, normalement, arrivent au terminal 1 et nous, on arrive au terminal 2. Donc, ça, c'était un peu confus pour lui. Mais du coup, moi, je me suis dit, mais alors, c'était qui? Enfin, ce Simon qui m'a appelé il y a quelques minutes et qui était censé venir me chercher. Et du coup, je comprends à ce moment-là que j'ai failli me faire kidnapper. Enfin, je m'imagine un peu des histoires rocambolesques. Et donc, je suis Jacob. Et donc, on part à Nairobi. Alors lui, il m'explique qu'il s'appelle Jacob. Il me demande d'où tu viens. Donc moi, je dis que je suis belgo-polonaise. Alors il me dit, ah oui, moi, mon ancienne copine était polonaise. Donc voilà, on commence un peu à papoter. Et en fait, moi, je le trouve très attirant. Voilà, c'est un grand homme. Voilà, je me souviens, il était tout habillé de rouge. Et je sais pas, je trouve qu'il y a une affinité. On s'entend bien. On arrive à l'hôtel parce que du coup ils avaient réservé une nuit dans un bed and breakfast et le lendemain matin en fait je suis supposée partir vers mon projet parce que j'ai un projet dans la brousse africaine avec les Maasai. Sauf que le bus, c'est seulement la fin d'après-midi. Et du coup, le matin et à midi, Jacob décide de faire un petit tour de Nairobi. Jacob, son travail, c'est donc de s'occuper des volontaires. Il a aussi le rôle de, comme il a fait pour moi, accueillir les volontaires et les amener dans les différents endroits au Kenya. Son job, c'est ça. Il travaille pour les organisations qui ont des projets partout au Kenya, avec des échanges internationaux et donc on se balade dans la ville, on va manger, on papote. Voilà, ça se passe très bien. Moi, je me dis que c'est chouette. La première personne que j'ai rencontrée est super sympa, que voilà, j'ai une personne de confiance, que s'il y a un problème, je vois bien que je peux lui en parler. Puis il est hyper ouvert. Et voilà, et je me dis c'est super chouette. Et en fait, c'est Jacob qui m'amène le fin d'après-midi. On part ensemble de Nairobi. Et on va vers une ville qui s'appelle Narok, où là, je suis censée retrouver la personne qui va me loger et d'autres volontaires qui font le projet avec moi. Et donc, on part, voilà, j'arrive chez l'habitant, je fais connaissance des autres volontaires. Donc, il y a deux Françaises et une Italienne. Donc, je dis au revoir à Jacob à ce moment-là. Jacob rentrait chez lui et moi, je partais avec donc les trois volontaires et Jeff, le Maasai chez qui on vivait. Et on va dans la brousse, donc on va vraiment au fin fond de la nature et coupé du monde, coupé d'internet. Enfin, il y avait pas d'électricité, il y avait pas d'eau courante, voilà. Et on arrive dans la brousse, dans les huttes. Le projet, c'est que on doit construire un éco-village. Le problème, et ça c'est un peu à l'africaine, c'est que en fait ce que Jeff a fait, c'est qu'il a demandé des fonds pour recevoir des volontaires, mais pas vraiment pour qu'on l'aide en fait. C'était juste un peu une excuse pour qu'il ait un peu de revenus pour pouvoir construire son éco-village. Parce que quand on arrive là-bas, en fait, on se rend compte qu'il a déjà un homme à tout faire. Et puis aussi, on va pas se mentir, nous, on a aucune connaissance de comment construire des maisons et tout. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu de jardinage, on l'aide à construire le puits. C'est un peu ça la mission, c'est rester avec la communauté dans la brousse, avec les Maasai. En fait, j'arrive là-bas en me disant, waouh, c'est exactement ce que je voulais. Genre, je voulais être coupée du monde, je voulais être loin, je voulais un peu me recentrer sur moi-même. Mais c'est vrai que y a quelques trucs qui font que c'est difficile parce que t'es coupée d'internet, Mais heureusement, il y a d'autres volontaires qui sont avec toi, qui sont toutes extraordinaires, et du coup, tu crées des liens super forts avec elles. Je vois des animaux sauvages tous les jours, je rencontre des gens extraordinaires, je fais des rencontres super, etc. Je suis, à ce moment-là, vraiment super contente, en fait, avec la volontaire italienne qui partage ma chambre. C'est génial, on s'entend super bien, on est deux grosses pipelettes, on n'arrête pas de parler, on est super proches. Et la situation fait que nos liens, en fait, les liens amicaux se créent très 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 vite parce que c'est un peu les seules personnes qui te rappellent un peu la maison, en quelque sorte, même si elles viennent d'autres pays que la Belgique. On est dans la brousse depuis plus ou moins 2 semaines. Et en fait, il y a une petite guerre entre 2 ethnies. Donc, il faut savoir qu'au Kenya, je crois, il y a 47 ethnies, si je ne me trompe pas. Et du coup, là, il y a une querelle entre les Maasai et les Kalenjin. Enfin, donc, ça devient un petit peu dangereux. Rien d'alarmant, mais on se dit, bon, c'est un petit peu chaud. Et la volontaire italienne me dit, mais Marie, allons voyager, allons ailleurs, le temps que ça se calme un peu, on peut aller dans une autre région du Kenya. Et moi, je dis, oui, c'est une bonne idée, mais on va aller où? On connaît rien, enfin, on connaît personne, on sait pas où aller, on va pas partir comme ça toute seule. Et elle me parle de Jacob. Elle me dit, mais écoute, il y a Jacob, moi, il m'avait proposé de, si un jour on voulait, on pouvait aller chez lui, parce que, du coup, il vit dans la région de Kisumu, qui est en fait au bord du lac Victoria. Elle me dit, donc, appelons-le et on voit avec lui. Il nous dit, mais oui, venez, pas de problème. Donc, le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, on part avec du coup la volontaire italienne et la volontaire française à Kisumu. Donc, bon, c'est toute une journée de route. Et on arrive chez la maman de Jacob, il y a les sœurs de Jacob, et puis évidemment, il y a Jacob. Et ils nous accueillent toutes les trois. C'est l'hospitalité à l'africaine, donc il n'y a pas de problème, vous venez. Sa maman est super contente de nous avoir, elle nous prépare un grand festin. Et puis lui, il arrive dans la soirée. Et moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis hyper contente de le voir. Je lui saute au cou. Je suis là, ah, Jacob, en anglais. Ah, je suis tellement contente de te voir. C'est génial. Comment tu vas? Et lui est super content de nous voir aussi. Mais j'ai l'impression que je suis beaucoup plus surexcitée de le voir. Et je pense que c'est parce qu'aussi, c'est une tête familière que je vois depuis 2 semaines, alors qu'on a été pendant 2 semaines un peu à voir tout le temps les mêmes personnes. Et là, je voyais un visage familier. Et puis en plus, on va pas se mentir, j'étais déjà physiquement attirée par lui. Donc j'étais super contente de le voir. Et voilà, on passe comme ça quelques jours ensemble. On visite donc Kisumu, on visite le lac Victoria, on va voir les hippopotames. On passe comme ça 4 jours extraordinaires. Et avec Jacob, on commence à s'apprécier, on commence à flirter ensemble, on se tient la main, voilà, on se fait des petits câlins, mais voilà, vraiment amical. Au moment où on se rend compte, il a 26 ans, donc c'est un homme très grand, noir de peau, il a vraiment une carrure comme ça, il n'est pas bodybuilder, mais il a une carrure, il est imposant quoi. Voilà, il a un peu des cicatrices sur le visage, il a des yeux noirs, et il a 2 petites fossettes sur ses joues, donc dès qu'il sourit, en fait, tout son visage s'illumine avec ces petites fossettes là. Voilà, il adore s'habiller, il s'habille super bien, il a un goût pour la mode. D'ailleurs, son deuxième job, en fait, c'est qu'il fait des vêtements, il fait des chaussures, il fait des sacs. Bon, c'est son passe-temps, parce que son deuxième job, là, pour les volontaires, ça prend énormément de temps. Mais du coup, quand on arrive chez lui, il nous montre des sacs, des chaussures. Il dit, oui, ça, c'est moi qui ai fait, ça, c'est moi qui ai fait. Et du coup, voilà, il a cette passion qui est la mode. Enfin, ce qui m'intéresse quand je le rencontre, c'est que c'est une personne qui a une ouverture d'esprit de dingue. Et on pourrait se dire, dans le stéréotype, hein, mais on pourrait se dire qu'une personne qui a vécu au Kenya toute sa vie, qui a rarement voyagé, enfin Jacob, il a voyagé juste en Afrique, à ce moment-là, on peut se dire, ben, il est carrément très européanisé au final, parce qu'il parle de sujets qui me touchent moi personnellement. C'est voilà, on fait partie de la même génération et du coup, on a un peu les mêmes centres d'intérêt et voilà, il est très ouvert d'esprit, il est drôle, il est très créatif. après nos 4 jours au lac Victoria, on doit retourner dans la brousse parce que on nous attend. Et je me souviens, à ce moment-là, on est dans le bus du retour et la volontaire italienne me dit « Ah, mais entre toi et Jacob, il y a quelque chose, non ?» Et moi, je suis complètement dans le déni. Je lui dis « Mais non, n'importe quoi, on est juste amis, il n'y a rien. » Faut savoir que voilà, moi avant, j'ai jamais eu de petit copain, je sais pas ce que c'est tomber amoureuse, donc pour moi, à ce moment-là, je peux pas dire que je suis amoureuse de lui, je le trouve attirant, oui, il est sympa, mais voilà, je me dis, non quoi, y a rien qui va se passer, de toute façon, lui, il est pas intéressé, je me dis, donc ça sert à rien. Et du coup, on retourne dans la brousse, et dans la brousse, en fait, je commence à recevoir des textos tous les jours de Jacob, dès le réveil. Comment ça va? Bonjour, est-ce que tu vas bien? Le soir pour me dire bonne nuit, voilà, on parle par texto tous les jours pendant 2 semaines et du coup on arrive vers fin novembre, donc ça fait 1 mois que je suis au Kenya et arrive le moment où ma copine italienne doit rentrer en Italie. Elle était venue que pour 1 mois de faire du volontariat et elle me dit « Marie, avant de partir, ce serait trop bien qu'on fasse un safari, un vrai safari, tu sais, avec les voitures, le vrai truc qu'on voit dans les films un peu. » Et encore une fois, on appelle Jacob, on lui dit « Écoute, voilà, elle va rentrer en Italie, est-ce qu'on n'organiserait pas un safari ?» Du coup, avec tous les amis qu'on s'est fait un peu ici au Kenya. Et du coup, Jacob organise ça, donc de nouveau, on quitte la brousse. Et à ce moment-là, moi, je décide de quitter définitivement la brousse et de partir faire un autre projet. Donc, on part. On va faire le safari. Donc, on est vraiment plein de monde. Il y a moi, l'Italienne, la Française, Jeff, Jacob et un ami de l'Italienne qui est venu la rejoindre. Et du coup, on arrive aux portes du parc national Masai Mara, où là on loge de nouveau dans un bed and breakfast et on se retrouve dans le bar, voilà, on papote, on est entre copains et tout. Et les gens commencent petit à petit à rentrer dans leur chambre, à dormir, et je me retrouve seule avec Jacob. Et du coup, on est seuls, ils nous disent « Mais écoutez, le bar va fermer. » Enfin, il n'était pas super tard, mais juste, ils allaient fermer le bar. On venait d'acheter encore 2 bières. Donc, on se dit « Ok, bon, on va finir les bières ailleurs. » Et donc, on va ailleurs, etc. Et puis, on commence à parler beaucoup plus en profondeur de nos sentiments. Moi, je comprends que je lui plais, qu'il m'aime bien. Donc, moi, ça me rassure. Je me dis « Ok, ben, je ne me suis pas fait des films pour rien. » On a commencé à s'embrasser. Et puis ça a dégringolé rapidement, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, moi, je suis un peu dans la surprise de me dire « Oula, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis ?» C'était pas prévu, ça. Donc, on passe la nuit ensemble, etc. Et puis le lendemain, moi, je me dis « Ok, mais moi, j'ai jamais connu ça, en fait. » Et du coup, pour moi, dans ma tête, c'est « Ok, ben, c'est fini. » Enfin, il a eu ce qu'il voulait et voilà, je suis un peu dans ce truc-là. Aussi, mes relations précédentes ont été comme ça. Donc moi, je suis pas du tout en train de m'imaginer d'avoir une relation sérieuse avec lui. Sauf que lui, le lendemain, il est super câlin, il me fait des bisous, il me tient la main. Et moi, je regarde mes relations passées parce que c'est tout ce que je connais. Et je me dis, ok, c'est bizarre, j'ai jamais eu autant d'attention en fait. Et je me sens bien, je me sens mis en valeur, etc. Je suis heureuse. Puis je suis dans une situation où voilà, j'ai quelqu'un qui m'apprécie, je l'apprécie aussi. On est dans un safari, donc évidemment, on est dans un endroit idyllique. On voit des lions, des guépards, des girafes, des éléphants. Et donc moi, je suis vraiment dans un état d'esprit. Enfin, je suis heureuse en fait à ce moment-là. Et je me dis, en fait, un peu comme je pense chaque être humain, je me dis, j'ai pas envie que cette sensation se finisse, quoi. Et du coup, voilà, on finit la journée, on rentre à Nairobi. Donc le lendemain, mon amie italienne rentre en Italie, donc je me retrouve un peu toute seule. Enfin, je veux dire, j'ai plus d'amis filles à qui je peux me confier. Et moi, je commence mon projet dans un orphelinat à Nairobi. Mais évidemment, je peux pas me permettre comme ça d'aller partir visiter Jacob dès que j'en ai envie. Mais j'ai les week-ends de libre. Et donc les week-ends, on passe nos week-ends ensemble. Là, à ce moment-là, je tombe amoureuse de lui et puis je comprends que lui aussi tombe amoureux de moi. Et donc, Moi, à un moment, je suis même à un point où je me dis, mais est-ce que je viendrai pas vivre au Kenya, quoi? Je suis vraiment dans ce truc de, je vais faire mes études ici. Sauf que le problème, c'est que si tu veux faire des bonnes études au Kenya, ben, souvent, tu as des universités qui sont parrainées avec des universités anglaises et américaines. Et du coup, c'est des prix à l'américaine, quoi. Donc, des je sais pas, 20 000 dollars pour un semestre, alors que ben, en France ou en Belgique, ça coûte rien, quoi. Moi, je suis vraiment dans un état d'esprit de je suis amoureuse, je veux rester ici, je veux être avec lui, j'ai pas envie de partir et tout. En fait, mes attentes sont vite arrêtées parce que, parallèlement à notre histoire, Jacob avait depuis quelque temps fait une demande de visa pour l'Angleterre parce qu'il avait reçu une offre d'emploi là-bas de 9 mois. Lui, parallèlement à notre histoire, se dit mais c'est une chance incroyable, je vais pouvoir partir du Kenya, aller ailleurs, rencontrer des gens et puis découvrir d'autres pays, etc. Et donc bah, lui, il a son visa, pour lui il part, quoi. Ce que je comprends tout à fait. Et du coup, ben moi je suis là, ben ok, tu pars, mais moi aussi je vais partir. Enfin, je vais pas rester ici au Kenya. Moi je suis censée rester 6 mois. Et du coup, là, à ce moment-là, je suis à peu près à 4 mois. Donc, on est en février, je suis arrivée en novembre. Et donc, je pars, en fait. C'est triste, mais on se quitte là où on s'est rencontrés, parce qu'on se quitte à l'aéroport. Et en fait, au début, on est vraiment dans ce truc de on va se quitter, quoi. C'est fini. Et puis vers la fin, les derniers jours, je suis là, non mais c'est bon, on va y arriver, on va faire une relation à distance. De toute façon, toi t'es en Angleterre, moi je suis en Belgique, ça va pas être si impossible. Je veux dire, oui, s'il était resté au Kenya, ça aurait été plus compliqué, mais là, il est littéralement à quelques heures de route. Et donc, on décide en fait de continuer, sauf à distance, quoi. Je suis super triste dans l'avion, vraiment, je pleure, parce que déjà, je quitte Jacob, je sais pas vraiment quand est-ce que je vais le revoir, mais aussi, je quitte... un pays qui a été extraordinaire. Moi, j'ai adoré le Kenya. Ça a été une expérience extraordinaire. Je suis amoureuse du Kenya. Je suis vraiment triste, quoi. Et donc, j'arrive, je me souviens, ma sœur vient me chercher, je pleure. Enfin, c'est vraiment... On est vraiment dans un drame Shakespearean. Et donc, j'arrive, voilà, en Belgique. Je suis pas bien. J'invite des copains un peu pour me changer les idées, mais ça me change pas trop les idées et tout. Et je tombe malade. En fait, j'ai de la fièvre. Je me dis, merde, j'ai de la fièvre, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, je demande à ma sœur de m'accompagner chez le médecin et le médecin me diagnostique une cystite. Donc, il me dit, bon, je vais vous donner des antibiotiques. Sauf que moi, j'ai du retard dans mes règles. Et bizarrement, j'ai le réflexe de le dire au médecin. Je fais, ok, vous allez me donner des antibiotiques, mais juste pour que vous sachiez, j'ai 4 jours de retard. On me dit, ok, bon, ben, on va vous faire un petit test de grossesse. Donc là, je me dis, oulala, mais je me dis, voilà, il doit le faire, mais il n'y a pas de raison que je sois enceinte. Donc, je fais le test et il s'avère qu'il est positif. Je tombe des nues, je suis ramassée à la balayette. Il faut savoir qu'à ce moment-là, comme je disais, j'ai 19 ans. Je me dis, c'est impossible que je sois tombée enceinte. Il faut savoir que moi, je me protège. Je ne suis pas inconsciente à aller au Kenya et avoir des relations sexuelles avec quelqu'un sans utiliser de préservatif. Je me dis, c'est impossible. Et donc, ma sœur qui est avec moi pleure. Moi, évidemment, je pleure aussi de choc. Et donc, on revient à la maison. J'appelle Jacob sur Skype. Donc lui, à ce moment-là, il est en Angleterre déjà. Je lui annonce la nouvelle et lui, il est super content. Enfin, il n'est pas là à sauter de joie, évidemment. Je pense qu'il est aussi... c'est vrai que je ne me souviens plus trop parce que moi-même, je suis dans un état de choc, donc lui dire ça et tout. Mais dans mes souvenirs, il est à ce moment-là content dans le sens où il a 26 ans, il a évidemment une autre culture que moi, donc pour lui à ce moment-là, à 26 ans, t'es déjà censé être père de famille, et du coup lui est super content, mais évidemment il comprend que ça vient avec son lot de problèmes, parce que on vit pas dans le même pays, moi je suis très jeune, j'ai aucun diplôme, puis je lui parle de ça, je lui explique, je fais mais on va faire comment, enfin littéralement tu veux qu'on fasse comment? Enfin, je sais pas en fait si je veux avorter, je sais pas si je veux le garder. En fait, je n'ai pas envie de prendre cette décision. Après, j'appelle mes parents et ma maman est super contente. Elle dit que voilà, de toute façon, un enfant, c'est un don du ciel, que quoi que je prenne comme décision, mes parents seront derrière moi. Si je décide de l'avorter, ils seront derrière moi. Si je décide de le garder, ils seront là, il n'y a pas de problème. Donc ça m'apporte vraiment du réconfort. Je me dis, ok, c'est bon, c'est une situation grave, mais je suis avec mes parents. Et pour le moment, en fait, je pense pas vraiment à Jacob dans le sens où lui, il est en Angleterre et il peut pas vraiment m'aider parce que lui, il a un visa anglais, donc pas un visa Schengen, donc il peut même pas se rendre en Belgique pour me voir. Et du coup, là, ma maman me dit, parce que mes parents vivent à ce moment-là encore en Pologne, j'arrive demain, après-demain à Bruxelles. Et du coup, ma maman arrive, voilà, on réfléchit à ce qu'on va faire. Déjà, on se dit, on va aller en Angleterre parce qu'il faut qu'on voit Jacob, il faut qu'on lui parle. Enfin, moi, je ne me vois pas prendre cette décision-là sans en avoir parlé clairement, en face à face, parce que Skype, je suis désolée, mais Skype, c'est, voilà, il faut avoir un contact humain. Donc, on part en Angleterre. Et là, ben, je vois Jacob. Mais moi, je suis toujours dans cette situation où j'ai pas envie de prendre cette décision, en fait. J'ai pas envie ni d'être mère, ni d'avorter, en fait. Mais j'ai 19 ans aussi. Enfin, j'ai 19 ans. Je viens de revenir de 4 mois du Kenya. Je suis toute jeune. J'ai pas de diplôme. J'ai pas fait d'études. Sauf qu'il faut pas oublier que moi, c'est la première fois que je revois Jacob depuis le Kenya. Donc moi, je suis super contente de le revoir. Évidemment, nos sentiments, ben, ils se confirment un peu. Enfin, ça fait... Voilà, on se rend compte qu'en fait, malgré tout, ben, on s'aime quand même super fort. Et je me dis, en fait, je l'aime tellement. Et je vois qu'il m'aime tellement que je sais qu'on peut traverser ça, quoi. Puis après, je me souviens que je me dis, en fait, cet enfant, c'est le fruit d'un amour. Et moi, je me vois mère, en fait. Et un jour, au petit-déj, on est avec ma maman et Jacob. Et je dis, j'annonce que voilà, je compte le garder. Sauf que, bah, donc, on rentre en Belgique. Moi, je suis toute seule en Belgique. J'ai que ma sœur. Mais ma sœur, elle vit sa vie. Elle est étudiante. Voilà. Donc, mes parents me disent, viens passer ta grossesse avec nous en Pologne. À ce moment-là, on ne sait absolument pas comment on va faire pour vivre ensemble avec Jacob. On comprend qu'on doit se marier, mais moi, j'ai aucune envie de me marier. Enfin, j'ai 19 ans, voilà, on va se calmer quand même. Et donc, on nous apprend, ben, l'autre alternative, c'est d'attendre que le bébé naisse. Et une fois qu'il est né, vous faites une reconnaissance de paternité de Jacob envers l'enfant, et c'est bon. Donc, je me dis, ah ben parfait, super, cool. Et de toute façon, on est à un moment où Jacob, il est sous contrat en Angleterre, donc il peut même pas dire, allez, ciao, je me casse. Il a même pas de visa Schengen à ce moment-là, donc il peut même pas décider de partir. C'est soit il reste en Angleterre, soit il rentre au Kenya. Donc pour le moment, le fait qu'il soit en Angleterre, c'est une bonne chose, parce qu'au moins, on peut aller le visiter plus facilement. Donc voilà, je passe ma grossesse en Pologne, donc ça se passe super bien. En fait, je renoue avec ma maman. Donc voilà, je suis entourée de mes parents, ça se passe super bien. Évidemment, au début, je le dis à personne, puis je commence à en parler autour de moi. Les gens sont super contents. Bon, évidemment, avec plein de questions, parce que c'est quand même une situation particulière. Et voilà, je rentre en Belgique parce que j'arrive au terme de ma grossesse. Et je voulais accoucher en Belgique. J'étais prête à accoucher. Et à ce moment-là, ben, le contrat de Jacob en Angleterre, qui normalement durait 9 mois, ben, 9 mois, c'est le temps d'une grossesse, ben, lui, il rentre au Kenya. Donc, il est au Kenya et moi, j'accouche. Et donc, j'accouche, j'ai ma maman et ma sœur qui sont avec moi dans la chambre. L'accouchement se passe très bien. En fait, j'ai pas de baby blues ou de dépression postpartum parce que dès qu'Emmanuel naît, je suis dans ce truc de « Ok, faut amener Jacob en Belgique. Faut le faire venir, quoi. » Et du coup, dès qu'il naît, je commence la paperasse. Donc, évidemment, j'allaite, je suis, je dirais pas maman célibataire, parce que c'est pas ça, mais je vis le début de la vie de mon fils toute seule, en fait. Et ça a été très compliqué aussi pour Jacob. Il faut savoir que lui, ben, il a raté ses premiers moments, donc c'est aussi pour un père, face à son fils, c'est difficile aussi. Évidemment, tous les jours, on le FaceTime, on lui envoie plein de vidéos, plein de photos, mais bon, ça a rien à voir avec être là et s'occuper de lui. Mais du coup, voilà, moi, en même temps, je m'occupe d'Emmanuel, J'ai évidemment, comme on dit, on a besoin d'un village pour éduquer un enfant. Moi, j'ai tout le monde autour de moi. J'ai mes parents, j'ai encore ma grand-mère qui est très active. J'ai mes sœurs qui sont là, même si voilà, elles ont leur vie à elles. Mais dès qu'elles peuvent, elles peuvent m'aider. J'ai mes amis. Si j'ai besoin, elles sont là, etc., etc. Vraiment, je suis entourée. Mais évidemment, j'ai ce manque de ne pas avoir mon compagnon. La nuit, c'est moi qui me lève seule. Quand il y a un problème, c'est vers moi qu'on vient, quoi. Déjà, il faut savoir que diplomatiquement parlant, la Belgique et le Kenya, ils n'ont aucun lien. Alors, en fait, la Belgique demande des documents que le Kenya n'a pas. Donc moi, je suis un peu là en plein milieu en mode « Ok, mais vous me dites ça, mais moi au Kenya, on me dit autre chose. » Et puis, c'est en anglais, donc il faut que je traduise tout en Belgique, soit en français, soit en néerlandais, soit en allemand. Donc c'est vraiment, ça commence à être compliqué. Heureusement, j'ai mes parents qui m'aident aussi financièrement. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont un bon statut social et qui sont là pour m'aider. Mais on en arrive à un moment où mon fils a, dans les 6 mois, 7 mois, on a fait tout un dossier qu'on a envoyé via l'ambassade au ministère des Affaires étrangères ici en Belgique et que ça prend un temps fou à recevoir une réponse. Et on arrive à un moment où on cale parce qu'on n'a pas de réponse, on n'a rien. Et heureusement, il y a une situation qui débloque un peu tout ce nœud. C'est qu'en fait, il y a une nouvelle consule qui arrive à l'ambassade belge à Nairobi. Et donc, de nouveau, on lui réexplique toute la situation. On lui dit que voilà, on apprend un peu par les sentiments. On lui dit, écoutez, il y a un bébé qui est en jeu. Il est tout petit, il n'a jamais vu son père. Enfin, aidez-nous, quoi. Et là, elle nous dit, écoutez, la solution la plus simple que je vois maintenant, c'est de le faire venir, donc de faire venir Jacob avec un visa touristique en Belgique. Comme ça, vous allez tous les deux auprès des autorités à la commune et vous déclarez officiellement que Jacob est le papa d'Emmanuel. Et on se dit, oui, d'accord, mais bon, enfin, pour ceux qui sont africains, recevoir un visa touristique pour l'Europe, c'est très difficile. Elle nous dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison que je n'accepte pas sa demande. Si tous les papiers sont en norme, il n'y a pas de raison. Donc Jacob arrive en décembre 2018. Emmanuel vient de fêter ses 1 an. Donc je me souviens, je vais le chercher à l'aéroport. Alors je suis super contente de le voir. Faut se dire qu'on ne s'est pas vu depuis plus d'un an, parce qu'on ne s'est pas vu depuis avant mon accouchement. J'ai décidé de ne pas amener Emmanuel à l'aéroport parce que je ne voulais pas que les rencontres entre le père et le fils se fassent devant tout le monde à l'aéroport. Donc j'arrive à la maison, il y a ma grand-mère et ma maman qui sont là avec Emmanuel. Et je me souviens, on ouvre la porte d'entrée et ma maman tient Emmanuel et Jacob est hyper content. Il commence à dire « Oh mon fils, enfin je te vois !» Et Emmanuel... C'est un bébé qui est hyper souriant, tout le temps de bonne humeur. Mais en fait, on dirait qu'il reconnaît son père. C'était incroyable. Il était super content de le voir. Il rigolait. Il était vraiment comme s'il avait compris que ça, c'est mon père. Et du coup, ça se passe super bien. On est enfin tous les trois. Donc on est. Enfin, moi, je suis. C'est le meilleur jour de ma vie, j'ai envie de dire. J'ai enfin mon compagnon. C'est qu'on vit avec mes parents, donc voilà, ça se passe pas super bien parce que ben voilà, je pense que chaque jeune couple qui vit encore chez ses parents peut comprendre que il y a des choses qui sont un peu compliquées. En plus, dans une situation où la personne vient d'un pays et d'une culture complètement différente, on déclare que Jacob est bien le père d'Emmanuel. Donc Emmanuel, dans son carte d'identité, a officiellement le nom de son père. Et par contre, on nous dit, une fois que c'est fait et que le visa touristique arrive à expiration, Jacob doit retourner au Kenya pour faire une demande de visa familial. Donc il peut rester vivre avec nous, mais il faut encore passer par ce visa de regroupement familial. S'il l'a pas, en fait, il peut pas rester en Belgique. Et donc c'est pour ça qu'il repart au Kenya encore 6 mois pour le faire. Il faut aussi se mettre dans les chaussures de Jacob, je pense, à ce moment-là. C'est que lui, il quitte son pays, il quitte sa famille, il quitte sa maman. Son papa est mort, donc sa maman est toute seule. lui, c'est un peu le chef de famille depuis que son papa est mort. Et il vient ici en Belgique en quittant son travail, en quittant tout. Alors oui, évidemment, il vient retrouver son amoureuse et son enfant, mais il arrive dans un pays qu'il connaît pas, il connaît pas la langue, il sait pas s'il va trouver du travail, il a pas de diplôme à proprement parler. Il faut savoir que voilà, pour avoir un diplôme en Afrique, il faut quand même venir d'une certaine classe sociale, ce qui n'est pas son cas. Il arrive ici cette fois-ci définitivement, il a reçu son visa de regroupement familial, il reçoit une carte d'identité belge avec écrit qu'il est étranger. On déménage de chez mes parents parce qu'on se dit qu'on ne peut pas vivre comme ça avec mes parents. Moi, de mon côté, j'ai entrepris des études. Donc voilà, je suis étudiante, maman d'un petit garçon. Donc, et du coup, on se dit, ok, ben, Jacob est là. Il faut qu'on commence à vivre, en fait. Il faut que tu trouves du travail. Et d'abord, il faut que tu parles en français. Donc il prend des cours de français, etc. Et on est dans ce truc-là. Jacob prend des cours, il s'occupe des manuels, beaucoup, parce que moi, je suis tout le temps en cours. Et lui est à la maison. Donc Jacob s'occupe beaucoup des manuels. Et puis arrive Covid. Donc on est confinés. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais merci qu'on ait confiné ensemble. Donc c'est chouette, on rattrape un peu le temps perdu, parce qu'on a quand même fait voilà, plusieurs années de relations à distance, etc. Et on arrive maintenant en 2023, où Jacob a trouvé du travail ici en Belgique, en Flandre. Du coup, il n'a pas besoin de parler français, même s'il parle... Il comprend le français maintenant, il le parle un petit peu, vu que à la maison, avec Emmanuel, on parle français. Moi, je finis mes études, je suis en dernière année de master, là, je suis en train d'écrire mon mémoire, sur le Kenya, d'ailleurs. Et Emmanuel a 5 ans et demi, et en septembre, il va rentrer en primaire. Maintenant, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, presque 7, et qu'on a quand même survécu à énormément d'obstacles, que ce soit la relation à distance, qui déjà est très difficile pour garder un peu la flamme, mais aussi le fait d'avoir un enfant. Je pense que beaucoup de personnes, c'est un obstacle d'avoir un enfant pour un couple. Nous, on a réussi à gérer ça, et puis aussi le fait qu'on vient de deux mondes complètement différents. Je suis européenne, je suis blanche, je viens d'une famille plutôt aisée, avec une certaine classe sociale, tandis que lui est africain, noir, et vient d'une famille très pauvre. Donc lui, il a dû quitter sa famille, il a dû quitter sa maman avec qui il est très proche, un travail confortable. En fait, tout ça, toute cette histoire, c'est parce qu'on est tombé amoureux au Kenya en 2016 et que notre amour, elle continue, quoi, malgré les obstacles. Et Emmanuel, ça se voit dans sa manière d'être que c'est un enfant de l'amour. C'est un enfant qui est hyper jovial, qui est heureux. Et on fera tout pour offrir à cet enfant le meilleur, autant moi que lui, quoi. On a des hauts et des bas, comme tout le monde. Mais on se dit qu'on peut vraiment réussir dans la vie, aller loin, à vieillir ensemble même, parce qu'on a réussi à passer tous ces obstacles, voilà.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1@gmail.com. Tiens, tant que je vous tiens, puisque vous aimez les histoires folles, découvrez notre nouveau podcast, Les Rescapés, sur toutes les plateformes.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.